les grands projets de Montréal puis Québec étant un peu réglés, là, étant derrière nous, je pense que ça nous mène à une bonne position. Là, vraiment, même le ministre Bonnardel, le ministre des Transports à Québec, me dit c'est le premier dossier qui est sur mon bureau. On a un engagement très ferme du gouvernement du Québec, puis ça, c'est bon parce que c'est 60% de la facture, puis ça nous aide avec nos discussions avec Ottawa. Ce qu'il va nous falloir, c'est de la flexibilité.
Ça nous prenait bien une déclaration de Maxime Penneau-Jobin pour amener Nicolas Brisson en studio. Salut Nicolas.
Salut Caroline.
Là, évidemment, tu vas me parler du train léger aujourd'hui, oui, à la suite de l'entrevue qu'on a diffusée hier avec le maire Maxime Penneau-Jobin. Et pas question pour lui que le projet soit amputé. C'est vraiment le dossier du siècle.
Bien, il a raison parce qu'au printemps passé, on a eu une excellente nouvelle. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, ça s'est fait de façon un peu bizarre, là. C'est le premier ministre qui est venu dire ici, ah ben oui, je vais faire le Québec, le gouvernement du Québec va faire sa part sur le projet de train dans l'ouest de Gatineau. Ça représente à peu près, grosso modo, 1,2 milliard. Moi, je l'avais dit à l'époque, je n'en revenais pas, là, un gouvernement qui annonce de cette façon-là, qui s'engage à faire
comme
sa part, à octroyer 1,2 milliard. Je pense que c'est le plus gros montant de l'histoire de la ville de Gatineau en matière d'infrastructure. Et le défi du maire maintenant, c'est d'aller chercher la part du fédéral qui représente à peu près 800 millions. Et c'est pour ça qu'hier, il a fait une espèce de sortie de presse pour annoncer sa rentrée politique. Mais le gros dossier qui, selon moi, est le plus important, que j'appelle le dossier du siècle pour Gatineau, c'est d'aller chercher un engagement électoral clair, net et précis.
Ben, je vais te dire qu'il est pas mal d'accord avec toi, le maire. C'est le dossier
du siècle. Oui, on s'entend là-dessus, mais il faut aller le chercher, cet engagement-là, parce que là, il parle de qu'il y a une modification des programmes pour permettre à une ville de taille moyenne comme Gatineau d'aller chercher du financement de la part du fédéral, parce qu'on sait que, à Québec, ils ont réussi parce que la Ville de Montréal a cédé une partie de l'argent. En tout cas, on ne reviendra pas là-dessus. Mais là, il reste là que c'est plus que ça, selon moi, là, parce que c'est pas juste d'avoir l'engagement. Ah oui, on va être plus flexibles. Parce que ça, ils peuvent te niaiser longtemps après l'élection. Puis qu'est-ce que ça veut dire, plus flexible? Non, il faut que les partis politiques, les chefs des partis politiques, Justin Trudeau en tête, qui est un député ici, Greg Fergus, qui dit que lui, il est en faveur de ça, puis que le fédéral va être là, il faut qu'ils prennent l'engagement clair, net et précis qu'ils vont financer leur part, comme pour Gatineau, comme François Legault l'a fait.
C'est ça, puis c'était pas seulement François Legault, c'est tous les chefs des différents partis politiques avant la campagne électorale provinciale. Tout le monde s'était engagé à le faire, et là, on a confirmé, une fois que le gouvernement Legault a été élu, que ça allait se faire du côté de Québec.
Oui, exactement, sauf que...
Est-ce que c'est tous les candidats fédéraux qui vont faire le même
pas? François Legault, en campagne électorale, il avait dit, moi, je vais appuyer financièrement, je vais être là, mais il n'avait pas dit exactement que ça allait être sa part. Ce printemps, il l'a vraiment... il l'a vraiment dit, c'est vraiment engagé. M. Bonnardel, le maire dit que c'est sa priorité sur sa table, une de ses priorités. Donc, on sait que le gouvernement du Québec est là. Et là, le défi, c'est d'aller chercher l'engagement auprès du gouvernement fédéral. Et moi, là, c'est parce que là, je sentais que le maire parlait de flexibilité dans les programmes. Non, il faut qu'ils se battent pour qu'on aille chercher notre part du gâteau à nous, Gatineau, là. Ils modifieront le programme s'ils voudront le fédéral, là, mais il faut que les partis politiques parlent de Gatineau. Oui, on va financer notre part, l'équivalent d'à peu près 800 millions pour que ce projet-là se concrétise. Et notre argument, Massu, c'est pas le problème, c'est pas le programme qui est pas assez flexible. Ouais. C'est que c'est carrément injuste qu'il aille financer le fédéral.
Le tramway.
Près de 2 milliards à Ottawa, puis pas une maudite scène à Gatineau. Mm-hmm. C'est le fait d'avoir financé deux phases à Ottawa, il y en a une qui est finie de construire, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être mise en service, une autre qui va commencer, puis sans avoir traversé la rivière, c'est carrément scandaleux. C'est un vrai scandale, c'est injuste. On le sait qu'une des raisons, c'est parce que Marc Bureau n'est pas l'eau au bâton, ni Maxime Penneau-Jobin, lors de la deuxième phase du train léger, on aurait dû dire « pas sans Gatineau ». On ne l'a pas fait. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est ça l'argument, Massu. Comment ça se fait que dans une agglomération urbaine de 1,3 million d'habitants, vous faites fi de Gatineau? C'est à peu près comme si le métro...
Alors qu'on parle d'image.
Alors, c'est comme si le métro partait de Manhattan, mais il n'allait pas à Brooklyn ou qu'à Boston, il n'allait pas à Cambridge ou qu'à San Francisco, il n'allait pas à Oakland. C'est impensable. Pourquoi ici, ils ont fait ça? C'est impardonnable et moi, je pense que Il faut absolument que le gouvernement fédéral corrige cette grave injustice-là, puis qu'il dise à Gatineau, oui, tu vas avoir ta part du gâteau, puis la phase 3, c'est Gatineau, puis on va financer à hauteur de 800 millions, comme on a donné 2 milliards pour la ville d'Ottawa.
Bien, hâte de voir les belles promesses électorales. Maintenant, reste à voir si ça va suivre l'argent.
Ah, bien là, en tout cas, c'est le défi du maire cet automne, un engagement précis pour Gatineau.
Il me reste quelques minutes pour t'entendre sur Trump qui est encore dans le trouble.
Ah oui, bien encore, il est encore dans le trouble, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. En tout cas, ceux qui ne l'aiment pas, là.
Pour nous.
Ben oui, parce qu'à quelque part, il a remis en question des accords commerciaux. Ouais. Je pense qu'il y a une majorité de Canadiens et Canadiennes qui sont pour qu'on lutte contre le changement climatique. Donc, Trump, il n'est pas là pantoute. Là. Mm. Donc là, il y a un sondage associé à cette presse qui dit qu'il y a seulement 36 % des Américains qui approuvent ses politiques. Tu sais, à titre de comparaison, jamais Obama est allé en bas de 40 % ouais. Le président Trump, là, il n'a jamais été plus haut que 42, c'est ce qu'il expliquait dans l'article. Ça veut dire qu'on est à 14 mois des prochaines élections. Ça veut dire que Trump, il est en danger, sérieusement.
Solide, oui.
Et que là, les perspectives économiques ne sont pas très bonnes parce que là où, en bon français, il score le plus, c'est l'économie, sauf que là, ça ne s'annonce pas très bien. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une fenêtre d'ouverte pour les démocrates pour battre Donald Trump. Et là, ça dépend vraiment des démocrates. Là. Je pense qu'ils ont senti les mains, parce que je ne pense pas que sa popularité augmente. C'est au-delà de toutes ses politiques et ses opinions, il crée beaucoup de chicanes inutiles. Oui. Puis ça commence à peser sur les électeurs. C'est sûr qu'il y a sa base républicaine, mais les autres, là, plus indépendants, plus indécis, peuvent dire, ben là, on pourrait se retourner vers un mandat plus calme, avec un président plus posé, qui ressemble à un vrai président, là, qui soit posé, qui respecte les institutions.
Il peut toujours nous surprendre, parce qu'il nous a surpris aux élections en étant élu. Personne n'aurait cru que Donald Trump allait se rendre à la présidence. Mais là, je pense que plus ça va, plus on remarque que finalement, c'était peut-être une mauvaise idée. Là. En tout cas, les gens des États-Unis, là, les électeurs aux États-Unis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais encore là.
Moi, je pense que c'est les primaires démocrates qui vont commencer en janvier.
On va avoir un bon aperçu.
Dans l'Iowa. Et moi, mon candidat, si j'étais un électeur démocrate, ça serait Mayor Pete Buttigieg, qui est un maire de 37 ans, qui se présente à la présidentielle, aux primaires démocrates, qui est un maire de petite ville de South Bend, qui est calme. T'sais, tandis que les autres, j'ai trouvé un peu trop énervé. Puis c'est comme, tu sais, le style, c'est important. L'image, si les gens veulent plus de chicane avec Donald Trump, ils ne se tourneront pas vers...
quelqu'un de semblable.
Quelqu'un de semblable, là, même s'il est à gauche, là, même s'il est totalement opposé dans les politiques. Ouais. C'est quand même quelqu'un, tu sais, j'ai l'impression des fois, là, quand j'écoute Mme Harris ou, son nom m'échappe, là...
Pas te le dire, là, moi j'écoute, je suis pas assez la politique américaine.
En tout cas, peu importe, il y a d'autres, Mme Warren, ça, j'ai l'impression qu'ils ont le goût d'en découdre pas mal, puis les Américains, s'ils changent, selon moi, ça va être quelqu'un de plus calme, plus posé. Et puis, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, mais au moins, Donald Trump est en situation problématique. Puis moi, ça me réjouit.
Merci, Nicolas. Bonne fin de semaine.
Au plaisir et bonne chance dans ta nouvelle fonction.
Merci.
On va t'écouter à la TV lundi soir avec plaisir.